The bleeding hearts of the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad buggy's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Maxime. Production. Mise en scène. Junier Jean-Pierre. Enregistrement. CVRB.
Non, non.
Ce n'est que dans son bureau, chez lui, qu'il devient jaloux. Je vais en avoir le cornet et savoir si ce saligo de fils me fait cocu. Sort l'épingle de la poche de sa veste et dire que c'est sa mère qui lui a offert. Il met l'épingle dans son tiroir.
Thank you.
La mère s'inquiète pour son fils. Elle voit qu'il ne fait rien et qu'il délaisse Gisèle. Pour prouver que les choses suivent leur cours, elle a invité pour le thé la mère et la fille. Elle leur dit « Mon fils est très pris par ses études, mais je suis sûr qu'il pense beaucoup à vous. » Gisèle est réconfortée par ce qu'elle vient de dire. Elle s'est mise à aimer vraiment Maxime. Elle l'aime si fort, si fortement, qu'elle le prend pour un prince de légende. La mère de Gisèle dit « Il est encore très jeune. » Et n'a pas d'activité, de situation. Oui, bien sûr, dit la mère de Maxime. Louise de Pressan tient à caser son fils pour pouvoir être libérée du rôle de mère. Ce rôle qu'elle n'a jamais aimé jouer, qu'elle n'a joué que malgré elle. Elle fait partie de ce genre de femmes que l'on marie, mais qui ont le genre de... qui aimeraient avoir le genre de vie de vieille fille. Même mariée et mère, elle reste vieille fille. Elle se sent bien qu'entre personnes de son tempérament, entourées de vieilles filles, de prêtres, dans des comités de bienfaisance ou associations quelconques. Maxime, après le premier rapport avec Mathilde, s'est senti étrangement heureux. On lui a offert une joie auquel il ne s'y attendait pas, ce qui l'a surpris. Mais il se demande comment elle va le recevoir. Ce qui s'est passé est un tournant dans notre liaison, ce qui nous empêche de revenir en arrière. Oui, ceci nous empêche de revenir en arrière. Nos rapports ne peuvent plus être comme avant. En pensant à cela, il a tout de même peur, peur de la revoir, de la revoir. Godefroid, malade de jalousie, observe son fils. Il le suit, mais ne voit rien. Le jour où mardi, Maxime va chez Mathilde, il est avec sa femme, mais pense que la bonne l'informera. Un soir, qu'il est seul avec sa femme au salon, ils sont assis, un côté de l'autre, sur des fauteuils près de la cheminée.
Je trouve que notre fils est trop jeune pour le mariage. Mais il faut le fiancer et surtout lui trouver une occupation. Ses études ne l'accaparent pas assez. Qu'en pensez-vous ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela m'inquiète aussi. J'ai peur qu'il ne prenne des maîtresses peu recommandables.
Ah, vous avez des soupçons, vous aussi ?
Non, mais comme tout jeune homme, il est peut-être attiré par certaines femmes.
Que faut-il faire ? L'envoyer faire un voyage ?
Non, ceci risquerait de l'éloigner de Gisèle. Il faudrait mieux lui occuper l'esprit. Il fut un temps où il aimait composer des vers.
Vous avez raison. Je vais le pousser dans cette direction.
Le lendemain après-midi, coup de froid frappe à la porte de la chambre de son fils. Entrez. Il entre. Il le trouve allongé sur son lit, en chemise.
Je te dérange.
Non. Le père s'approche de lui pour s'asseoir sur une chaise qui est à côté du lit.
Voilà, j'ai un ami qui dirige une revue littéraire et cherche de nouveaux talents. Alors j'ai pensé à toi. Tu écrivais bien des vers il y a pas si longtemps.
Ce n'était rien, j'ai abandonné.
Eh bien, tu n'auras plus qu'à t'y remettre.
Je n'ai pas de talent.
Qui t'a dit cela ?
Je le sais.
Allons, allons. On se juge toujours trop durement. Allez, écris et envoie-les à cette adresse.
Le père lui tend un bristol. Regarde sa montre.
Bon, il est temps que je parte. À ce soir.
Il se lève et sort.
Depuis qu'il est devenu l'amant de Mathilde, Maxime vit comme s'il était sur un nuage. Plus rien ne compte pour lui que l'être au quai, que d'être auprès d'elle, de la voir nue, toucher son corps, la sentir jouir. Il aime comme un homme. Elle, par contre, continue à l'aimer comme un jeune homme. Elle aime son côté juvénile, sa voix pas encore adulte, son côté gauche de faire l'amour. Elle se sent entièrement femme avec lui, c'est-à-dire maîtresse et mère en même temps. Dans l'acte d'amour, elle a l'impression qu'il refait sa naissance. L'envers, en entrant en elle, elle le fait vivre en elle comme le fœtus dans le ventre de la femme. Et bien sûr, pour ne pas le fâcher, elle ne lui dit rien de ses impressions et de sa façon de l'aimer, car elle sait combien les jeunes gens sont susceptibles et comme ils aiment jouer les hommes, les vrais. L'effort.
si Mathilde continue à recevoir Godefroy, c'est par pure nécessité. Elle a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Ses petites craintes ne lui suffisent pas, mais la honte de tromper Maxime. Godefroy, il est dur, ne pense qu'à son plaisir, la traite comme un objet dont il est fier, et c'est sa fierté qui l'a rendu jaloux. Le soir où elle le reçoit, pour ne pas terminer la soirée au lit, pour éviter d'être infidèle à Maxime, de temps en temps, elle dit qu'elle n'est pas bien, faiblesse ou mal de tête. Lui, cela le rend furieux. Il se lève pour faire les 100 pas.
Dites simplement que vous n'en avez plus envie. Je ne vous plais plus.
Ne dites pas cela. Je suis fatigué et c'est tout.
Fatigué. Vous l'êtes toujours. Cela fait des semaines que ça dure. Il vous faut voir un médecin.
Ce n'est qu'une fatigue.
À moins que vous ne soyez fatigué que de moi.
Pour qui d'autre le saurais-je?
Bon, eh bien, je m'en vais. Cela est très pénible, cette douche écossaise. Tantôt oui, tantôt non. Je viens chez vous. Je ne sais jamais si ce sera oui ou non.
Elle se lève. Elle lui dit, si vous m'aimez, vous devez venir chez moi, pas que pour les cadeaux, mais pour être avec moi.
Je ne comprends rien à ce que vous dites.
Et il se dirige vers la sortie. Elle le suit.
Au revoir, Mathilde.
Il l'embrasse sur la joue. Au revoir, Godefroy. Et n'oubliez pas que c'est la fin du mois.
Ah oui, la prochaine fois.
Et il sort furieux. Une fois dehors, il pleut. La rue est déserte.
Il se dit, elle a un sacré culot de demander de l'argent.
Il n'a pas envie de rentrer chez lui, trop énervé. Alors il va dans une maison close, faire ce qu'il n'a pu faire chez Mathilde.
Qu'il oubliera. Il va tout de suite où il part sans elle.
Jack.
Bon, allez, dégage.
Je trouve un peu dur avec les clients.
Toi, tu te charges de la marchandise, moi, je m'occupe de la clientèle.
Hubert et Lix écrit à Maxime et à sa famille pour leur dire qu'il rentre à Paris et viendra leur rendre visite. Il est curieux de savoir ce que devient Maxime et s'il a bien suivi ses conseils. Je sais que tu es un jeune homme sérieux et bien, mais ce qui me fait peur, c'est que tu risques d'être corrompu par les autres. Amuse-toi, c'est de ton âge, mais étudie, car ton avenir en dépend. Méfie-toi des femmes, car lorsqu'elles s'occupent d'un homme, elles cherchent à régenter sa vie. Alors, adieu à tes projets. Avant de fréquenter et une situation, et fais tout ce que tu souhaites faire, car après, il sera trop tard. Méfie-toi aussi des compagnons de plaisir qui ne pensent qu'à s'enivrer, à s'amuser. Mais que cela ne t'empêche pas de t'amuser, tout en restant lucide, en sachant jusqu'où tu peux aller et en gardant surtout ton corps pour des personnes qui en vaillent la peine. À bientôt, Maxime. À bientôt, mon ami. Maxime trouve cette lettre un peu trop moralisatrice, mais il est heureux qu'Hubert pense à lui. Hubert revient d'un voyage en Afrique qu'il a fait pour ses affaires. Il habite un appartement dans un vieil immeuble cossu à deux pas de l'hôtel des Pressans. Hubert est l'ami d'enfance de Godefroy. Ils se sont connus en pension et durant l'Empire, il l'a aidé lorsqu'il avait eu des difficultés avec le gouvernement à cause de ses idées politiques. Lorsque Maxime est né, il en est devenu le parrain, puis les parents l'ont laissé s'occuper de son éducation. Maxime était plus souvent chez Hubert que chez ses parents. Il y avait une chambre et ses affaires. Le lendemain de son arrivée, Hubert est allé leur rendre visite dans l'après-midi. Il retrouve au salon le père et la mère. Ils sont heureux de se retrouver. Après s'être embrassés, ils s'assoivent. Le père lui dit « Je suis très heureux de te revoir, Hubert. As-tu fait bon voyage ?»«
Oui, excellent. Et comment va Maxime ?»«
Ah, celui-là. Il nous crée beaucoup de soucis. Il ne fait rien, passe son temps à rêvasser. Et en plus de cela, je crois qu'il a une maîtresse. »
La mère le regarde surprise. « Tu en es sûr ?»«
Je pense. » Donc, je ne sais que faire de mon fils. Il faudrait que tu lui parles.
Je le ferai. Quand est-ce que je le verrai?
Il sera ce soir à la soirée que nous faisons. D'habitude, il refuse d'assister à nos soirées, mais là, j'ai insisté.
Maxime est furieux d'assister à cette soirée. C'est le jour où il va voir Mathilde. Il décide de s'éclipser le plus tôt possible. Malheureusement, Hubert et Gisèle sont là. Sa mère lui a emmené Gisèle, une Gisèle triste, car elle se rend compte de l'agacement de Maxime. Sa mère lui a dit « Fais danser Gisèle, elle n'entend que cela. » Alors, pour être débarrassé, il a fait danser sans lui parler ni la voir. Cela la rend triste. Car elle a l'impression d'être prise comme une chose qui encombre.
Elle ne m'étonne pas du tout et me séduisent infiniment.
Ceci la triste tellement qu'elle en a les larmes aux yeux.
Alors, s'il doit se perdre, qu'il se perde tout de suite. Je n'aurai plus à penser à lui.
Se perdre ? Un garçon qui sera évêque dans 7 ans ?
Oui. C'est bien ce que je dis.
Elle est tellement attristée qu'après la valse, elle court vers sa mère. Mais partons, je vous en prie. Que t'arrive-t-il ? Rien, je veux m'en aller. Je vous en supplie. J'ai suffisamment souffert comme cela. La mère part avec la fille furieuse. Elle a compris que sa fille a été rejetée, humiliée. Je n'en mettrai plus jamais les pieds ici, dans cette maison. Elle part avec sa fille.
Vous parlez comme une femme. Il était plus que laid. Il portait son âme sur son visage.
Vous n'y portez rien dans votre visage.
Une fois entrée dans le carrosse, elle prend la main de sa fille et lui dit : Ne t'en fais pas, ma fille. Ces gens ne sont pas pour toi. Nous te trouverons un autre parti. Mais je l'aime. Je l'aime. La mère, une fois avoir couché sa fille, va frapper au bureau de son mari.
Entrez.
L'homme est assis à son bureau. Il est maigre, les cheveux gris, les yeux profonds, porte une redingote noire. Sa femme s'approche.
Robert, il faut que notre fille s'éloigne de Paris. Il faut lui trouver un voyage à faire.
Que se passe-t-il ? Elle est malheureuse.
Durant le bal, Hubert voit Maxime. Il le trouve nerveux, s'approche de lui.
Bonjour Maxime. Hubert, comme je suis heureux de te revoir.
Moi aussi. Que deviens-tu?
Tu vois, je suis de corvée ici. Et à part cela,
pas grand-chose.
Viens, éloignons-nous de la foule. Il mène Hubert hors du bal dans le bureau de son père. Au premier étage.
Mariana ne tiendra jamais compte des convenances.
Je ne vois pas ce qu'il y a d'inconvenant à danser avec mon fils.
Non, ma chère. Je parlais de sa robe rouge.
La pièce est sombre, l'on entend moins le bruit de la soirée. Ils s'assoient tous deux sur un divan. Dis-moi ce que tu deviens. Je viens de te le dire, à toi, puisque tu es celui que j'aime et le respecte et respecte le plus. Je vais te dire autre chose. Un secret. J'ai rencontré une jeune femme. Je l'aime, elle m'aime.
Nous sommes tous très fiers de vous, lieutenant.
C'est bien. Qui est-elle? Elle s'appelle Mathilde. C'est une vraie femme. Qu'est-ce que tu appelles par une vraie femme? Pas une jeune fille de mon âge. Elle a quel âge? Elle doit avoir dans les 25, 27 ans. Mais elle est belle! Belle et douce. C'est normal que tu sois tombée amoureuse d'une femme plus âgée que toi. Mais fais attention.
Tu l'as entendu?
Non, ne crains rien. Nous faisons rien que nous aimer. Nous ne sortons pas, ou peu, dépensons presque rien. Et tes études? Mes études? Ouf! Ça va, ça vient. Hubert est inquiet. Il se dit qu'il doit perdre son temps. Fais attention à toi. L'amour, c'est toujours beaucoup, mais ce n'est pas tout. Et puis, avez-vous l'intention de vous marier? Nous n'y pensons pas. Hubert regarde sa montre. Il se lève. Je dois te quitter. Viens chez moi. Si tu veux, bien entendu. Et avec tes parents, cela va-t-il? Avec mes parents. Mon père est irritable ces derniers temps. Une de ses maîtresses doit l'ennuyer. Les mères ne cherchent qu'à se débarrasser de moi. Il veut se libérer de son rôle de mère. Tu es jeune, mais tu es déjà en âge de vivre ta propre vie. C'est ce que je souhaite. Alors deviens quelqu'un. Termine tes études. Mais pour cela, il faut que tu aies l'esprit libre. Il faut être amoureux, mais pas trop. Et bien choisir l'objet de son amour. Quelquefois, le cœur se trompe et nous fait passer à côté de vrais amours. Je ne me suis pas trompé. C'est le bon choix. Fais attention de ne pas être aveuglé et de faire des choses irrévocables. Ne t'inquiète pas. Bon, je te laisse. Allez, au revoir. Et il quitte le bureau.
D'attendre la fin de ces hystéries. Et que le roi le signe, bien entendu.
C'est ça, monsieur le comte.
Ah oui, bien sûr.
Pardonnez-moi.
Hubert est inquiet pour Maxime. Il sent que ça ne va pas et trouve une tension, quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Mais quoi ? Il ne sait pas.
Il a donné une nouvelle raclée au noir. Et il a fait prisonnier un autre chef. Celui-ci s'appelait Magigana.
Il ne va pas nous l'envoyer ?
Presque.
Presque.
Il veut en envoyer une partie, la tête. Le sauvage, je parle de Mousinot, bien sûr. Il a coupé la tête et l'a mise dans un bocal. Il veut nous envoyer le tout.
C'est un fou furieux. Il faut lui envoyer un télégramme dès demain matin pour le sommet de ne plus expédier de nègres. On dit quoi ?
Gisèle aime toujours Maxime, mais elle ne peut supporter la façon dont il la traite. La convoquait à son bureau et lui dit « Ta tante doit aller faire une cure à Vichy. Elle souhaite que tu l'accompagnes. Après cette cure, elle fera un voyage en Italie. Qu'en penses-tu ? » ?»« Cela me ferait plaisir de quitter Paris. Oui, je veux bien. » Mais une fois dans sa chambre, elle est angoissée de quitter Paris sans revoir Maxime. Oh, Maxime. Alors, dans l'après-midi, sans rien dire à sa famille, elle va sonner à l'hôtel des Pressans. Dit au maître d'hôtel qu'elle désirait voir Maxime. Le maître d'hôtel la fait entrer au salon. Il est allé chercher Maxime. Il est surpris de cette visite. Elle est au milieu de la pièce. Il s'approche d'elle. Elle lui dit « Je suis venu vous dire au revoir. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'assoit sur la chaise qu'il lui présente et lui s'assoit sur la chaise d'en face. Oui, je pars quelques mois avec ma tante. Vous allez où ? À Vichy, en Italie. Beau voyage ? Oui. Partez combien de temps ? Je ne sais pas vraiment, peut-être 6 mois. Il lui dit, vous allez nous manquer. C'est vrai ? Oui. Pourtant, vous n'avez guère fait attention à moi ces derniers temps. Je vous en prie, je m'en excuse. Mais j'étais très pris, oui, très pris. Elle le regarde, il a une bonne prestance, semble sûr de lui. La regarde et est émue par son air triste.
Elle se lève et dit, il faut que je m'en aille. J'ai sûrement beaucoup de choses à faire avant de partir. Lui se lève, s'approche d'elle. Cela m'a fait plaisir de vous épaisser à moi pour me dire au revoir. Je souhaite que vous fassiez bon voyage. Elle a l'air tellement triste et ses yeux sont remplis de larmes. Cela la rend très vulnérable car on a envie de la consoler. Tout à coup, il lui donne un baiser sur la joue en lui prenant les deux mains. Elle le regarde surprise. Il lui dit, ne sommes-nous pas amis? Alors elle ne sait plus. L'aime-t-il? Ne l'aime-t-il pas? Elle quitte la pièce en courant. Lui la voit s'éloigner en se disant, pauvre petite biche effarouchée, pauvre petite biche effarouchée. Elle est à Vichy avec sa tante, vieille fille sèche et capricieuse. Il fait beau, il y a du monde. Un après-midi, en se promenant dans les jardins de la ville avec sa tante à son bras, elles sont accostées par un jeune homme, un jeune militaire, grand, mince, les cheveux et la fine moustache chantant. Je me présente, Armand de Mézières. Je suis seul ici et ceci me ferait plaisir si vous pouviez passer l'après-midi. Enfin, si nous pouvons passer l'après-midi ensemble. Oui, je sais, cela ne se fait pas de parler à des inconnus. Vous voyez, je bégaye. Mais nous sommes ici, dans cette petite ville, où les connaissances et les convenances peuvent se relâcher un peu. Elles sont surprises, toutes deux, mais voient très vite que c'est un brave jeune homme qui s'ennuie. La tante demande,
pourquoi êtes-vous ici?
Oh, pour une petite fatigue nerveuse.
Vichy, c'est très bon pour les fatigues nerveuses.
Tout est bon dans cette ville d'eau. Si nous allons écouter de la musique là devant ce kiosque, c'est ce qu'ils font. Une semaine plus tard, Gisèle et Armand de Mézières sont bons amis. Ils aiment tous deux la même musique et la danse. Ils passent leurs après-midi ensemble avec la tante. Gisèle le trouve doux et prévenant et fait toujours le geste qu'il faut pour l'aider. Lui la trouve très belle. Le père de Maxime, chez Mathilde, vient de trouver sur la cheminée du salon un petit papier. Il est écrit dessus « Serai en retard ce soir. Attends-moi. Je t'aime, Maxime. » Furieux, il s'avance vers Mathilde qui le regarde inquiète. Il lui montre le mot.
C'est sans doute cela qui te rend faible, qui t'empêche d'être avec moi comme il le faudrait. Dis, depuis combien de temps est-il ton amant ?
Se penche vers elle et la secoue.
Ça t'amuserait hein, d'avoir le père et le fils. Tu pourras comparer les deux générations. Salope, garce, réponds.
Lâche-moi. Me faites mal.
Espèce de putain. Il fait bien l'amour, mon fils. Hein? Pour que tu ne veuilles plus aller avec moi. Moi qui t'en fais... Hein? Moi. Mais ne t'en fais pas. Tu ne le verras plus. Je vais l'éloigner. Oui, l'éloigner de toi.
Il la lâche et lui jette le papier à la figure.
Tu es à moi. Il n'y a personne d'autre.
Il quitte la pièce en claquant la porte. Demain matin, il va voir Hubert qui le reçoit dans son salon.
Je veux éloigner mon fils. Paris ne lui convient pas. Tu pars en Italie demain.
Oui.
Je sais, c'est un peu juste, mais emmène-le avec toi. Rends-nous ses services. Bien. Je fais ça pour toi, mais aussi pour lui,
dit Hubert. Puis Godefroy va à la chambre de son fils. Il est encore au lit.
Tu pars demain matin avec Hubert pour l'Italie.
Maxime n'ose pas refuser, car il sent qu'il s'est passé quelque chose et que son père est furieux. Furieux. Durant toute la journée, son père ne le laisse pas seul, et la nuit, la porte de sa chambre est fermée. Ce qui fait qu'il ne peut avertir Mathilde, qui, elle, est dans tous ses états.
Salut, beauté.
Une fois dans le fiacre, une fois éloigné de l'hôtel, il a le courage de demander à Hubert. Je veux dire au revoir à une personne.
Je vous en prie. Conduisez-moi.
Oui, où tu voudras, mon petit, lui dit Hubert.
Maxime frappe à la porte de Mathilde. Pas de réponse. Il s'éloigne. Puis revient sur ses pas. Déchire une feuille de son carnet. Griffonne un mot, le met sous la porte et descend les escaliers.
Allumette chimique, achetez-moi un paquet d'allumettes.
C'est son père qui a ramassé le papier derrière lui. Mathilde est furieuse. Le père sourit. Il déchire le papier.
Le petit salopard. Heureusement que j'ai les clés de chez toi.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Maxime, dont c'était la troisième partie.